Deutéronome chapitre 5, et on va lire les versets 6 à 21. Et je vais vous les laisser lire, tiens, aujourd'hui, pour une fois. Quelques-uns veulent lire un commandement après l'autre.
Verset 6. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi.
Verset 8. Tu ne te feras point d'image taillée et de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné.
Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage, et le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Je te souviendrai que tu as été esclave au pays d'Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos.
Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras pas, tu ne connaîtras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, tu ne désireras point la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain.
Merci. Voilà les 10 commandements ou le décalogue qui a été écrit il y a environ 3000 ans, hein, 3 mois après la sortie d'Égypte, et Moïse va recevoir de la main de Dieu ses commandements, et puis ben, 3000 ans après, on les connaît encore. Une société s'est presque basée là-dessus pour construire ses propres lois. On invente maintenant nos propres lois, hélas, mais bon. On avait vu les 4 premiers commandements qui appelaient au respect de Dieu, à la personne de Dieu, et ensuite les commandements 5 et 6, et puis la dernière fois, ce respect que l'on doit à l'autre, mais qui va venir seulement si j'ai un respect vis-à-vis de Dieu. Je ne respecte pas mon prochain si je ne respecte pas Dieu. Ça va de pair. Hein. Aujourd'hui, on va parler des 4 derniers commandements qui touchent encore aux relations avec le prochain. J'avais dit la dernière fois, si tout le monde respectait les commandements parfaitement, le monde serait beau. Il n'y aurait plus de vol, il n'y aurait plus de problème dans ce monde. Mais ça commence déjà par nous, hein, parce qu'on regarde souvent l'autre. Hein. Toi, respecte les commandements, mais moi, est-ce que je les respecte déjà? C'est ça la vraie question. Le 1er des commandements d'aujourd'hui, c'est le 7e commandement, en fait, tu ne commettras point d'adultère. Et ça, il faudrait le crier en long et en large aujourd'hui, parce que c'est tellement banalisé, que ce soit dans le monde, mais hélas aussi dans l'Église. Le mariage, il y aurait beaucoup de choses à dire dessus, mais c'est une alliance à vie. Le jour où vous choisissez votre fiancé, que vous lui dites oui, le jour de ce mariage, vous faites une alliance devant Dieu. Vous contractez une alliance devant Dieu, et c'est pour la vie. Et ça, on l'oublie bien souvent, parce qu'on se dit que, bon, au bout de 10 ans, quand j'en ai marre, hop, je me dérobe et j'irai voir quelqu'un d'autre. Devant Dieu, c'est une alliance à vie. Dieu voit le couple comme une unité profonde. Et quand j'ai dit oui à ma femme, ou à mon époux, j'ai dit oui devant Dieu. Il est le plus grand des témoins. Et lui, il ne va pas mentir, quelque part. Et pour lui, le mariage est absolument important. Il le veut fidèle, mais le veut fidèle comme lui est fidèle avec nous. C'est dire le critère qu'il est en train de mettre là. Le mariage, je sais que c'est un combat, hein. Je suis marié, donc je sais de quoi on parle. Mais c'est une responsabilité, et ça, je pense qu'aujourd'hui, les gens l'ont complètement oublié. C'est une responsabilité vis-à-vis du conjoint. Quelqu'un écrivait que le mariage, c'est se choisir chaque jour. Hein. Oui, se choisir chaque jour, tout à nouveau l'un l'autre, telle est la liberté glorieuse que le Saint-Esprit nous donne dans le mariage. Cette expérience d'un amour toujours intact et d'une unité sans cesse plus profonde constitue le premier but du mariage, avant même celui de la procréation. Car c'est dans cette fusion d'amour, renouvelée par le Saint-Esprit, où les deux ne sont plus qu'un, tout au long de leur vie, que Dieu est d'abord glorifié. Choisir tous les jours, c'est comme si on se remariait tous les jours. Bon, ça coûte pas aussi cher, parce qu'on va pas faire chaque fois les noces, hein. Mais c'est ça, je choisis mon conjoint, je choisis d'être avec mon conjoint tous les jours de nouveau. Et c'est ma responsabilité, parce que j'ai dit oui à un moment. Dieu connaît nos besoins. Alors si, parce qu'on peut lire dans la Bible que certains sont faits pour rester seuls, voilà, Dieu a permis que des gens passent leur vie seuls. Par contre, dans d'autres cas, comme dit 1 Corinthiens 7, il dit à ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Paul était seul à ce moment-là, mais il était marié avant, on pense. Hein. Il était certainement veuf. Mais s'il manque de continence, alors la continence c'est maîtrise sexuelle, hein, si on a des besoins, qu'il se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. Dieu connaît nos besoins, et d'ordre sexuel, mais d'ordre émotionnel, dans tous les sentiments, la solitude qu'on peut peut-être éprouver, Dieu connaît tout cela. Et justement, il a donné des cadres, des possibilités de pouvoir trouver un conjoint et de partager la vie avec lui. C'est quand même formidable, hein ? Dieu sait de quoi j'ai besoin. Si je me retrouve seul, peut-être qu'il y a des gens qui vont passer leur vie seuls vont dire « Ah, mais moi je voulais être marié », mais peut-être qu'il faudrait aussi accepter que vous êtes fait pour ça, tout simplement, plutôt que se battre toute une vie. Après, bon, si vraiment vous avez besoin de quelqu'un, je suis sûr que si on prend le temps de prier et de demander au Seigneur un conjoint, alors un conjoint chrétien, je sais que ce n'est pas évident aujourd'hui, mais Dieu peut tout, non ? Moi, il m'a envoyé ma conjointe, entre guillemets, elle était à Angers, moi j'étais à Strasbourg. Hein. Je ne pensais pas qu'on allait se croiser un jour, mais Dieu peut absolument tout faire. Mais il faut prier, il faut prendre le temps plutôt que d'agir par nous-mêmes, parce que des fois on dit, bah, Dieu ne répond pas, donc je vais essayer, je vais aller dans le monde et puis je vais essayer de trouver quelqu'un. Et 20 ans après, divorce, problème et difficulté. Hein. On va aller vite aujourd'hui, il faut aller très vite. Mais la prière, c'est long, ça prend du temps des fois, et Dieu va nous entendre et va forcément nous répondre. Et si j'ai trouvé l'âme sœur, alors ça c'est formidable, on la trouve, hein, et ben c'est pas comme le monde, hein, on va pas coucher ensemble, on va faire comme le monde, on va prendre un temps de fiançailles, un temps où on va apprendre à se connaître, sans qu'il y ait cette sexualité qui est là, pour apprendre à se faire confiance, pour apprendre à, tout simplement à être amoureux vraiment, et ensuite seulement on va se marier. Le monde, lui, essaie tout d'abord, et après on verra bien si ça marche ou pas. Dieu, il est sage. Il a donné un ordre pour que les choses se mettent en place. Mais Dieu refuse l'adultère. Si je prépare bien mon mariage, alors je ne dis pas que tout mariage va être forcément heureux, parfait, parce qu'il n'y en a aucun, je pense, mais il s'agit de préparer ce mariage. Sinon, le diable, lui, il va venir, il rôde. Hein. Il rôde pas que pour l'église, il rôde aussi dans le couple. Et s'il peut faire péter les couples dans l'église, c'est ce qu'il préfère. Parce que derrière, c'est la famille qui en pâtit et qui en souffre quelque part. Le couple est tellement important. Et le diable le sait et va tout faire pour nous tenter. Tout simplement. L'adultère, c'est péché contre l'unité du couple. Ça détruit la famille, ça se détruit soi-même, ça détruit des fois peut-être même l'église, ou du moins ça fait du tort à l'église. L'adultère, ça vient de la frustration qu'on peut éprouver à un moment dans la vie de couple. C'est normal. Il n'y a pas de couple, hein, c'est pas le prince et la princesse, ça c'est au début. Hein, dans les contes, on finit toujours et se marier, eux, beaucoup d'enfants. Moi, j'aimerais bien voir 20 ans après, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ils sont encore aussi amoureux qu'à ce moment-là ? Hein, avec 40 gamins, je ne sais pas s'ils seraient tellement heureux. Voilà, ça c'est le début du mariage, mais après, le vrai mariage, c'est autre chose. Hein. Et il y a des frustrations, il y a des convoitises, le diable est là, on l'a dit, et bien souvent, la solution... C'est la facilité, on trompe, on s'en va, on divorce, etc., plutôt que de se battre. On croit que tout ira mieux parce que souvent l'herbe est plus verte ailleurs. Vous savez, on peut recommencer un autre couple avec quelqu'un d'autre, mais 20 ans plus tard, ça sera la même chose. Vous aurez les mêmes difficultés. Autant régler déjà aujourd'hui les problèmes que j'ai, 20 ans de mariage, ou 30 ans, ou 50 ans, je sais pas, vous, parce que ces problèmes, vous les transférerez tout simplement dans un autre couple. C'est la même chose partout. Hein. Je ne vais pas me dire que tout le monde est parfaitement heureux dans son mariage. Je suis pas d'accord. Hein. On a tous nos combats, nos difficultés. Mais Dieu refuse l'adultère parce que ça fait du tort, et parce qu'on brise tout simplement l'alliance que lui, il a contractée, que nous avons contractée devant lui. Dieu a cadré la sexualité biblique. C'est un cadre, et le cadre, c'est le mariage. Je fais ça avec une personne que je connais, avec une personne que j'aime, pas à droite et à gauche. Aujourd'hui, on veut tout essayer. On veut aller vite, on va essayer la personne, j'ai l'impression, comme un objet. On t'essaye, puis si ça va bien sexuellement, on se marie. Quand on y réfléchit quelque part, c'est ça ce que font les gens. Et on essaie encore bien d'autres choses. Et après, on va voir peut-être si on va se marier. Mais souvent, on en ressort malheureux, triste. Parce qu'il y a eu une telle intimité que forcément, après, il faut s'en remettre. C'est pas ce que Dieu veut. Et finalement, le monde fait comme cela et se rend absolument malheureux et des fois désespère à un tel point. Alors que Dieu a dit, non, j'ai fait un cadre pour que vous soyez heureux. C'est quand même fou. Hein. On veut faire à notre manière, on est malheureux et après on accuse Dieu parce qu'on est malheureux. Alors que lui a dit, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. J'ai mis un cadre et c'est comme cela que vous allez agir. La sexualité ne bâtit pas le mariage. Ça en fait partie, mais ça ne bâtit pas le mariage. Le vrai mariage, c'est l'amour véritable. C'est un amour responsable. Je suis responsable de l'alliance que j'ai contractée vis-à-vis de mon conjoint. Ce n'est pas lui qui est responsable pour moi. Hein. C'est moi qui suis responsable devant Dieu et devant mon conjoint. Et ça, on l'oublie bien souvent. Je suis responsable devant Dieu et devant mon conjoint. Puis dans Matthieu 5, 28, hein, on pourrait parler de l'adultère dans le cœur, puisque Jésus en parle aussi. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, on va dire un homme aussi, hein, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, convoiter, le mot en grec, c'est convoiter, vouloir, c'est désirer. Il y a quelque chose de fort là-dedans. Ce n'est pas trouver quelqu'un beau ou avoir jeté un coup d'œil sur une personne. Ça, ce n'est pas un adultère. Mais c'est quelqu'un qui va commencer à convoiter et ce désir va devenir persistant dans le cœur. Il va imaginer des choses, va se projeter peut-être dans l'avenir. Et là, oui, ça commence à faire du mal même au fond de son cœur parce que je n'ai pas ce que je convoite quelque part. C'est ça que Jésus veut dire. Hein. Ce n'est pas parce que vous trouvez quelqu'un beau que vous le convoitez forcément. Moi. Mais il y a d'autres dangers aujourd'hui hein, dans ce cœur qui pourrait être adultère. Il y a la pornographie, il y a des sites de rencontres. On parle souvent de pornographie, mais on ne parle pas de ces sites de rencontres où on peut faire un tas de choses pires, des fois. Vous savez, l'adultère, ce n'est pas que le sexe, hein, c'est aussi les sentiments. Hein, il ne faut pas oublier. Il y a les films, aujourd'hui. Alors là, les films, j'ai presque plus envie, des fois, de regarder la télé, parce qu'il y a du sexe partout. Et en plus, on essaie de banaliser l'homosexualité de plus en plus. Toutes ces choses rentrent dans notre maison, et bon, on parle pour nous, mais on ne parle pas forcément de ces choses-là, et ça, pour nous, c'est normal. Maintenant, ils sont en train de nous apprendre des choses. Et nous, dans l'inconscient, ça rentre. Et à un moment, on va dire, bon, ouais, c'est normal qu'il y ait des scènes homosexuelles. Il n'y a pas de problème. C'est triste de voir que le monde est de plus en plus comme cela. Mais ça, c'est aussi une forme d'adultère, quelque part. Et Dieu ne veut pas de ces choses-là. Dieu attache donc une haute importance à notre alliance dans le mariage. Alors, pour que ceux qui sont mariés, c'est trop tard. Il faut réfléchir à tout ça maintenant. Mais peut-être que vous voulez vous marier. Et il faudra bien vous souvenir que le mariage, c'est une alliance. Et que je fais devant Dieu... Et devant des témoins, hein, parce que quand je marie souvent, je dis que moi, je suis témoin aussi de votre mariage. Donc, si vous voulez vous séparer, non, vous avez dit devant moi que vous voulez rester ensemble jusqu'à la fin de votre vie. Donc, vous n'avez pas le droit de vous séparer. Mais Dieu, il est plus grand. Et devant lui, je n'ai pas intérêt à mentir non plus. Le 8e commandement dit, tu ne déroberas point. Vous ne volez pas, vous. Vous n'oseriez pas le dire. J'espère que non, en tout cas. Mais voler, c'est désirer ce qui appartient au prochain. Hein, ou prendre tout simplement ce qui n'est pas à moi. Et dans la poche. Quelqu'un écrivait, le vol commence dans le cœur. Et c'est Luther qui dit, tout se passe dans le cœur. Vous voyez le jeune homme riche de l'évangile, Jésus vient le chercher dans tout ce qui lui tient à plus à cœur, car il ne regarde pas à l'apparence, mais au cœur. Et le 10e commandement est situé au niveau du cœur. Le problème de ce jeune homme riche, c'était qu'il aimait l'argent. Et c'était dans le cœur. Hein, et il ne voulait pas se séparer de cela. Et nous-mêmes, en volant, on est en train de dire qu'on convoite, on est parfois jaloux de ce qu'a l'autre, ou de ce que peut-être on peut me proposer. On a envie de toutes ces choses-là. Puis on est des fois avare aussi. Hein. Mais vous savez, quand vous avez volé, c'est bien. Vous avez pris quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous l'avez enfin. Et maintenant commence la culpabilité dans le cœur. Je ne sais pas si on a vraiment gagné quelque chose. Alors, dans le monde, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui se culpabilisent, même si on essaie de la taire, cette culpabilité. Mais en tant que chrétien, si j'arrive à voler, il y a un problème. Ou alors c'est que je n'écoute pas le Saint-Esprit, ou alors c'est que je n'ai pas le Saint-Esprit, et donc je ne suis pas né de nouveau. Si j'arrive à voler en tant que chrétien, il y a un problème. Alors le vol, il y a plusieurs formes de vol. Hein. Voler un sac à l'arrache, hop. J'espère que ça ne vous arrivera jamais. Enfin, sauf si vous courez vite, ça va. Cambrioler une banque. Oui, aujourd'hui c'est de plus en plus difficile, hein. Tout devient, il n'y a plus vraiment d'argent dans une banque, hein, mais il y a des moyens modernes, hein. Vous savez, si je n'étais pas chrétien, hein, je vais dire quelque chose de terrible, mais je serais riche aujourd'hui, hein. Avec internet, vous pouvez faire un tas de choses pour voler, hein. Et le monde le sait. Mais il y a plus subtil, et là je parle peut-être plus aux chrétiens, le téléchargement, c'est illégal. Et les chrétiens ne se gênent pas du tout. Pas vous, évidemment, mais beaucoup de gens. Les copies, le streaming, tout ça, c'est illégal devant l'État. Vous allez me dire, ah, tout le monde le fait. Oui, m'en fiche. Il est écrit, tu ne voleras point. Et ce qui n'est pas à moi, n'est pas à moi, tout simplement. Et si Dieu me permet que j'ai un travail, je peux aussi l'acheter. Ça coûte quoi, tout simplement? Ça aussi, c'est du vol. On peut voler les impôts, le RSI, pour moi, qui suis indépendant. On peut arnaquer le prochain. Vous savez, à partir du moment qu'on prend un euro à quelqu'un et que ça ne vous appartient pas, c'est du vol devant Dieu. Il dit, ah, mais ce n'est pas un million, ce n'est pas si grave que ça. Un euro, c'est du vol, tout simplement. C'est votre conscience qui sera devant Dieu ensuite. Le chrétien, selon Romains 13, est appelé à obéir à la loi. Alors je sais, on n'aime pas toute la loi, on n'est pas forcément d'accord avec tout ce qui se passe, je sais, moi aussi. Mais le Seigneur me demande d'obéir à la loi tant que ça reste biblique. S'ils vont plus loin que la Bible, là, évidemment, on ne va pas obéir. Mais je suis censé obéir à cette loi. Et puis, il y a une autre forme de vol beaucoup plus subtile, c'est voler Dieu. Il a déjà volé Dieu ? Il dit, bah non, jamais. Ben, on peut voler son temps, tout simplement. Le Seigneur attend quelque chose de nous, pour le connaître, par exemple. Il faut du temps pour apprendre à connaître Dieu, non ? Déjà, dans un mariage, il faut toute une vie pour apprendre à se connaître, et on est là tous les jours. Alors, pour apprendre à connaître Dieu une fois toutes les semaines, ou tous les deux semaines, je ne sais pas si vous allez vraiment bien le connaître, comme cela. On peut voler le temps de Dieu pour l'adorer, par exemple. Pour témoigner, est-ce qu'il ne mérite pas qu'on témoigne de lui, de son amour, comme on a dit tout à l'heure? Ça, c'est aussi voler le temps de Dieu. On peut voler son dû, parce qu'on parle de l'offrande souvent comme quelque chose qu'on donne, on a travaillé, on donne. Mais souvenez-vous que c'est Dieu qui vous a donné le travail pour que vous puissiez manger, pour que vous puissiez vivre, et que vous puissiez rendre ce qui est dû à Dieu. Alors Dieu ne demande pas 10%, parce que ça c'était la dîme autrefois, mais il demande quelque chose. Est-ce qu'il ne mérite pas cela? On a de la chance d'avoir un travail, non? On a de la chance d'avoir une maison. Tout le monde n'a pas ça. Et Dieu attend tout simplement qu'on le glorifie, qu'on l'adore aussi au travers de l'offrande. C'est voler Dieu que de ne pas lui donner son offrande. En 1 Corinthiens 6, 19, il est dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ?» À partir du moment que je suis né de nouveau, je ne m'appartiens plus. C'est dur quand on y réfléchit vraiment. Maintenant, j'appartiens totalement à Dieu. Corps, âme, temps, argent, tout ce qui est à moi, tout ce que je fais, devrait appartenir à Dieu. Alors, il n'y a pas à me dire qu'il ne faut plus aller travailler, parce que vous voulez seulement vous occuper de Dieu. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais on est bien d'accord que j'appartiens maintenant à Dieu. Et donc, il attend quelque chose, forcément, de moi. Si vous commencez à vous marier et que vous ne vous intéressez pas à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas tenir très longtemps, à mon avis. Je ne vais pas dire qu'on s'est marié avec Dieu, mais il y a une relation maintenant avec Dieu, au quotidien, normalement. Mais si je ne l'entretiens pas, Dieu, il est patient, heureusement, parce que sinon... Mais si je n'entretiens pas cette relation, Dieu est déçu. Voler Dieu semble ne pas avoir conséquence sur la terre. On peut se dire, bon, je n'ai pas le temps pour Dieu, je n'ai pas le temps d'apprendre, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Et puis on se dit, ce n'est pas si grave, d'autres chrétiens le font aussi. Ouais, seulement un jour, on sera devant le tribunal de Christ. Alors, c'est pas pour remettre en question notre salut, puisqu'on est sauvé en tant que chrétien, mais on sera jugé sur le bien et le mal qu'on aura fait étant dans notre corps. Et là, Dieu va dire, voilà, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu m'as volé? Et il y a des récompenses au bout. Et il ne faut pas croire que, parce qu'aujourd'hui on n'y pense pas, qu'un jour ça ne va pas se passer. Ça va vraiment se passer. Et moi je crains ce tribunal, même si on essaie de faire au maximum, je crains ce tribunal de Christ quand même. Alors, heureusement que Dieu est plein de compassion, mais quand même, ce sera la honte. Si Dieu doit vraiment nous enlever toutes nos récompenses. Donc, ne considérons pas le vol, plutôt considérons le vol dans sa vraie dimension. C'est quelque chose de terrible que de prendre à l'autre et de prendre à Dieu aussi. Et ne minimisons pas le vol en créant notre propre loi, parce que souvent notre conscience arrive à se fabriquer ses propres lois pour s'arranger et arranger son budget souvent. Le 9e commandement dit « Tu ne porteras pas de faux témoignages ». Le faux témoignage, la définition dans l'hébreu, ça signifie, enfin le mot dit répondre, témoigner, affirmer, parler, crier. Le faux témoignage, c'est tout simplement raconter quelque chose qui ne s'est pas passé vraiment, enfin qui ne s'est pas passé comme la réalité. Je mens sur une situation, tout simplement. Je détourne la vérité. Et en faisant cela, je vais encore multiplier les péchés, parce que si je détourne la vérité, je suis en train de mentir, je vais faire du tort à l'autre, donc j'ai fait du mal à mon prochain, et... Ça pourrait même aller jusqu'à la condamnation à mort. On verra des exemples tout à l'heure. voyez, quand on fait un faux témoignage, il n'y a pas que le faux témoignage le problème. C'est tout ce qui va en découler après. Et péché après péché, je les multiplie pour pouvoir conserver ce faux témoignage. Les effets du faux témoignage, dans Proverbe 25, 18, il est dit « Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. » Prenez un couteau, plantez-lui le dans le cœur, c'est exactement la même chose que de témoigner à tort vis-à-vis de quelqu'un. Ça blesse le prochain, ça va être nuisible à sa réputation, et une réputation, ça peut durer des années, ça peut mener quelqu'un au suicide à la fin, parce qu'on a mal dit les choses. C'est mentir à l'encontre de quelqu'un, et vous savez, les plumes, c'est quelque chose qui, hein, ça vole. Ben, le faux témoignage, c'est pareil, ça vole un peu partout, et ça va là où le vent veut bien mener, mais c'est très difficile de les arrêter. Une fois que quelque chose est lancé sur Internet, par exemple, vous savez très bien que allez-y pour l'enlever ensuite. En France, vous savez qu'il y a une sacrée peine pour celui qui donne un faux témoignage. J'avais regardé comme ça. Et le faux témoignage est un délit, hein, c'est sur le site, sur un site que j'ai trouvé, un délit qui porte atteinte à la fois à la justice et à la personne lésée. Il s'agit d'une altération consciente de la vérité commise par une personne déposant sous serment devant une juridiction ou un officier de police judiciaire agissant en exécution d'un une commission rogatoire. Vous allez apprendre ça par cœur tout à l'heure. Dès lors, cela suppose que le témoin ait prêté serment. On est dans un cadre là, mais quand même. À défaut, il ne pourrait y avoir d'infraction. De plus, l'intention coupable est nécessaire. Il n'y a pas d'infraction par distraction, oubli ou imagination excessive. En tout cas, l'article dit que si j'ai fait un faux témoignage, j'ai 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. C'est-à-dire que si l'État lui-même reconnaît que c'est déjà quelque chose de terrible, alors pourquoi Dieu ne le trouverait pas encore plus terrible ? Alors Dieu ne vous fera pas payer forcément une amende, mais bon, quand même, ce sera votre conscience qui va être travaillée. Donc le faux témoignage est quelque chose d'absolument terrible. On peut s'intéresser à quelques cas de faux témoignages dans la Bible. Hein. Par exemple, ben, le diable, dans le jardin d'Éden, il a donné un faux témoignage à Adam et Ève, et il a dit, mais non, mangez ce fruit, il est bon, vous allez devenir comme des dieux, etc. Il a tordu la parole. Il a fait un faux témoignage de la parole de Dieu, et bon, Adam et Ève l'ont cru, et voilà ce que ça a donné, des pécheurs, tout simplement. À cause d'un faux témoignage, toute l'humanité est dans le péché. Vous imaginez quand même les conséquences. Un autre faux témoignage, c'est Naboth, je ne sais pas si vous connaissez, il y avait le roi Akab qui voulait absolument sa vigne, hein, il l'a convoité justement, et sa mère, si je me souviens bien, va demander à deux faux témoins de l'accuser de maudire Dieu, et le roi et ce pauvre Naboth va être lapidé sur deux témoins qui ont menti, tout simplement. Donc le faux témoignage peut mener à la mort, certains. Jésus-Christ lui-même a été accusé par des faux témoins, et à cause de cela, il sera crucifié. Bon là, c'est un peu différent, parce que c'était aussi le plan de Dieu, mais Dieu ne tient pas Dieu tient pour responsable ses faux témoins quand même. Ce n'est pas parce que le plan de Dieu s'est accompli que ses faux témoins sont innocents. Et puis Étienne, qui a été accusé de blasphémer Moïse, Dieu, après avoir parlé hein, de beaucoup de choses, des faux témoins vont aussi l'emmener et l'accuser, et ils vont l'emmener pour se faire lapider à ce moment-là. Voilà l'impact, en fait, du faux témoignage. Hein. Le chrétien et le faux témoignage, parce qu'on va dire, moi je ne donne pas de faux témoignage en tant que chrétien, mais on peut se poser des questions quand même. Par exemple, si j'ai un mauvais témoignage au quotidien, dans mon travail, dans ma famille, que j'agis mal, quelque part, c'est un faux témoignage de l'Évangile aussi, parce que je ne suis pas en train de refléter l'Évangile. Si je suis un chrétien qui vole, qui fait n'importe quoi, vous n'êtes pas en train de témoigner de l'Évangile, et c'est une forme de faux témoignage aussi. Je présente mal l'Évangile, je présente mal Jésus-Christ, tout simplement. Le témoignage de notre doctrine, ah, la doctrine, personne n'aime ça, la doctrine. Apprendre des choses. Mais si quelqu'un me pose une question et que je bricole ma réponse parce que je ne sais pas, je donne un faux témoignage aussi. Vaut mieux des fois se taire que d'essayer de bricoler, transformer, essayer d'arranger quelque chose que je n'ai pas vraiment compris, envoyer vers le pasteur, c'est mieux, mais vous comprenez l'idée. Et beaucoup de gens, j'entends beaucoup de choses sur Internet, Facebook et tout ça, quand je vois la doctrine comme elle est tordue, arrangé, mixé, je ne sais pas comment on pourrait dire autrement, c'est un faux témoignage de l'Évangile. Et des gens croient cela. Et par exemple, le salut par les œuvres, c'est un faux témoignage de l'Évangile. Et à cause de ce faux témoignage, des millions de gens croyant être religieux se retrouvent en enfer, tout simplement. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau, parce qu'ils ont juste été religieux. Voyez l'impact du faux témoignage, même pour les chrétiens. Et puis l'exagération, hein, je ne sais pas si vous connaissez l'expression d'être marseillais, hein, mais c'est pêcher un poisson grand comme ça, mais il était comme ça à la base. Hein. Mais des fois, nous-mêmes, en tant que chrétiens, on exagère des choses. J'ai été béni par Dieu, à un point. J'ai eu 20 euros, quoi. Bon, c'est déjà une belle bénédiction de recevoir 20 euros. Hein. Mais est-ce qu'on n'exagère pas des fois, peut-être, même notre conversion, hein, on romance. Alors, je ne dis pas qu'on le fait tout le temps, mais je crois que des fois, les récits, les conversions et tout ça, on exagère des fois ces choses-là. Hein. Vaut mieux des fois être vrai, parce qu'à un moment, on peut aussi tomber dans le faux témoignage. Donc voilà, le chrétien aussi doit faire attention à sa manière d'agir parce qu'il n'est peut-être pas forcément un faux témoin directement, mais d'une manière ou d'une autre, il peut quand même mentir, entre guillemets, un tout petit peu. Mais mentir un tout petit peu, c'est mentir. Je suis désolé. Et puis il y a les commérages. Il y a plusieurs textes dans la Bible hein, qui parlent de médisance. La médisance, c'est celui qui diffame, celui qui dit du mal du prochain. T'as vu ce qu'il a fait dimanche, le pasteur ? Habillé, bon encore ça c'est peut-être pas de la médisance, mais hein, encore que, si vous rigolez ça veut dire que vous y avez pensé. Non mais c'est colporter de fausses choses à propos d'un frère, j'ai entendu quelque chose et je vais le répéter à un autre, je vais même pas aller vérifier si c'est vrai. Et combien de choses peuvent comme ça circuler dans l'église, que ça soit vrai ou que ce soit faux, on n'a pas le colporter. Ça, c'est pas de l'amour, moi, pour les autres. Sauf si vraiment, oui, il y a quelque chose de dangereux, de nocif, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est pas de l'amour que de colporter les ragots des uns et des autres. Je pense que c'est valable dans l'Église, mais même au travail. Alors là, au travail, les ragots, hein, on pourrait en écrire des livres. Et des fois, le chrétien se plaît à rentrer dans la chaîne de ses ragots et ne va pas colporter lui-même tous ses ragots. Je pense qu'au travail, on n'a pas à faire ça non plus. Ni avec nos amis, etc. S'il y a quelque chose qu'on doit colporter à un moment, c'est la bonne nouvelle. Tu me dis quelque chose de mal sur quelqu'un d'autre, mais moi je veux te parler de Jésus-Christ, qui dit quelque chose de mal sur toi par contre. Tu es pécheur et tu as besoin d'être sauvé. Hein? Ah là, la personne va vous regarder, peut-être qu'elle va se convertir tout de suite, je ne sais pas, si vous êtes assez prédicateur à ce moment-là. Hein? Mais moi, en tant que chrétien, j'arrête justement le colportage pour colporter la bonne nouvelle. Ça c'est bien, faites-le. Hein? Ne vous gênez surtout pas, la Bible nous demande de le faire. Donc voilà pour ce 9e commandement, hein. Réjouissons-nous de la vérité, je vais rajouter vrai, excusez-moi, la vérité vraie, parce qu'il y a des vérités, demi-vérités, bricolées, etc. En tant que chrétien, je dois être dans la vérité vraie, et en plus je dois la propager, et pour moi, pour me sentir bien, mais aussi pour glorifier tout simplement le Seigneur. Et le dernier commandement, tu ne convoiteras point, certainement le plus terrible, j'ai l'impression. Verbe hébreu veut dire... Le verbe hein, convoiter veut dire agréable, précieux, vouloir, désirer. Je veux quelque chose qui me semble précieux. En grec, ça parle de passion, ça va un peu plus loin. Vivement, ça parle aussi de luxure, quelque part. Hein, c'est quelque chose d'assez fort. Un désir pour ce qui est défendu. Ah, c'est bon ce qui est défendu, non? Personne ne convoite ici, ça va? Je suis rassuré. Mais vous êtes des menteurs. On convoite tous, je suis désolé. C'est pas le fait de convoiter qui est le péché, c'est d'aller plus loin. Mais on se comprend bien. La convoitise veut la maison du voisin. Il veut pas forcément cette maison, mais il est jaloux de la maison du voisin. Oh, il vient de s'acheter une nouvelle voiture et moi, je peux jamais m'acheter cette belle voiture que je veux depuis longtemps. Et je convoite. Hein. La femme du prochain ou le mari du prochain. Hein. Ah, elle est belle, tout semble mieux chez eux. Hein. J'aimerais bien être marié avec eux, ça a l'air mieux, les enfants sont gentils, etc. Gnagnagna. Tout ce que je possède pas, je peux convoiter. Jacques chapitre 1, versets 14 à 15 dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » On a parlé un vendredi, c'est pas le fait de convoiter le problème, hein, c'est comme un oiseau qui se balade au-dessus de votre tête et qui vole, ça c'est la convoitise. Mais à partir du moment qu'il se pose sur votre tête et qu'il fait son nid, là, vous avez entamé la convoitise, vous avez agi et vous avez saisi ce que vous convoitiez et c'est là où ça devient un péché. Et le péché mène à la mort. On est tenté par notre propre convoitise, puis elle mène au péché et à la mort. C'est le cœur de l'homme qu'il faut soigner. C'est là-dedans le problème. On a envie de tellement de choses. Il faut soigner ses désirs, soigner sa chair, soigner la nature pécheresse, et là il y a un sacré boulot à faire. Mais ça vient du cœur, tout simplement. Et si je convoite quelque chose, ben jetons-nous par terre tout de suite, à genoux, et demandons à Dieu d'enlever ce désir que j'ai à ce moment-là, pour que je n'aille pas plus loin. Il y a des choses simples, mais il y a des choses des fois plus difficiles. Et plutôt que les laisser grandir dans notre cœur, autant lutter dans la prière. Et Dieu va nous aider dans ce domaine-là. Convoiter, ça vient d'une insatisfaction chronique, j'ai envie de dire, hein, qui est forcément liée à notre nature pécheresse, parce que notre chair, elle est là et elle veut, elle veut, elle veut. Le Saint-Esprit est là pour dire « Non, tu ne peux pas, tu ne peux pas. » Et il y a un combat entre les deux. Généralement, on laisse plus aller la chair qu'obéir au Saint-Esprit. Mais bon, au fur et à mesure, on apprend à faire l'inverse. Mais vous savez, ça commence déjà tôt que de convoiter. Hein. Une petite histoire, là, hein, en parlant d'un gamin. Georges était l'image même de l'enfance rude et indisciplinée. Alors, sa tignasse frisée et rousse allait de pair avec une personnalité extravertie et emplie de confiance de soi qu'accompagnait une langue pressante. Il avait seulement 3 ans, mais il savait toujours ce qu'il voulait. Il ne parlait que peu de mots, mais il les faisait tous compter. Et en tout premier, parmi ses expressions, était « je le veux aussi ». Hein, on a tous été gamins à un moment. Le frère reçoit ou la sœur reçoit quelque chose. « Je le veux aussi !» Convoitise. 3 ans, même déjà avant. Hein. Quoi qu'ait quelqu'un d'autre, surtout son frère et sa sœur, Georges en voulait aussi. Et dès cet instant, de la bouche et de la main, il faisait la guerre jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait ou soit repris par la discipline parentale ou l'autodéfense fraternelle. J'aime bien l'autodéfense fraternelle. Boum. Mais dès qu'on est jeune, je veux. Quelqu'un écrivait aussi « J'en veux aussi » repose à la racine du second problème le plus profond de l'homme. « Je veux être mon propre Dieu ». Quelque part, il y a quelque chose qui est aussi lié là. Le fait de vouloir tout, ça veut dire aussi que je veux être Dieu quelque part, pour tout maîtriser. Voilà. Donc c'est assez grave que de convoiter. Et ça commence tôt, et ça terminera à notre mort seulement, parce qu'on convoitera jusqu'au bout, je suis désolé. Mais on peut lutter contre cette convoitise. Et avec le temps, le problème c'est que ce pauvre gamin de 3 ans va grandir, et au fur et à mesure, il va être de moins en moins heureux, parce qu'il voudra encore plus et encore plus. Et ses désirs vont se multiplier, etc. Au point que des fois, ben, ça devient vraiment n'importe quoi. Et c'est marrant parce que, je ne sais pas si vous, mais vous vous êtes déjà comparé aux pauvres. Parce que souvent, quand on convoite, on se compare tout le temps aux riches ou à ceux qui ont. Mais on se compare rarement à celui qui n'a rien. Ah là là, qu'est-ce que j'ai comme chose chez moi par rapport à celui qui est pauvre? Mais pourquoi je convoite? Plutôt à lui de convoiter normalement, non? Mais on se compare toujours à ceux qui ont beaucoup plus. Parce que la jalousie, eh ben elle est là. Hein. On jalouse ce qu'a l'autre, et cette jalousie fabrique le péché. Quand vous êtes un peu insatisfait, je ne sais pas, prenez-vous 15 jours en Afrique, ou dans les pays pauvres, hein, là où il y a vraiment une pauvreté. Quand on est allé en Bulgarie il y a 2 ans, je vous garantis que quand vous voyez les maisons de ces gitans, où il n'y a même pas de ciment entre les pierres, où la fumée elle passe au travers des pierres, où ils se gèlent, excusez-moi, mais quand je suis rentré, j'ai dit, qu'est-ce qu'on est riche, hein? On est riche. Il faut s'arrêter de temps en temps, parce que c'est ça qui va empêcher aussi la convoitise. Et puis, il y a la société aussi, hein, qui crée cette insatisfaction, qui est quelque part pour moi factice, parce qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'on a. L'iPhone, vous n'en avez pas besoin, c'est faux, c'est complètement faux. On vivait bien autrefois sans ça, non? Et vous allez me donner tous vos iPhones tout à l'heure, comme ça je vais tout revendre. Non, vous ne voulez pas? Non, je rigole, je sais qu'on a besoin de communiquer, on est bien d'accord. Mais la société fait de telle sorte que nous soyons frustrés pour qu'on en désire toujours plus. Et si vous êtes avide de publicité, alors là, ça va rentrer de plus en plus dans votre cœur. Je suis comme vous, hein, moi je suis un geek, donc j'aime tout ce qui est technologie et je pleure de ne pas vivre 200 ans de plus pour pouvoir voir ce qui va se passer. Mais à un moment, stop, hein. Je ne veux pas être frustré par toutes ces choses-là, par la société surtout et par le monde. Hein. Et si on en désire plus, alors on va dire on va travailler plus pour obtenir plus. Mais le problème, c'est que si vous travaillez plus, vous n'avez plus le temps d'utiliser ce que vous venez d'acheter. C'est tordu tout ça, en fait, quelque part. Donc la convoitise, finalement, ne satisfait absolument personne. La Bible dit qu'il faut refuser la convoitise pour apprendre le contentement. Content. Content de ce que j'ai. 1 Timothée 6 à 8. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. On parle souvent de piété, mais c'est lié, hein, le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. nourriture, vêtements. Dieu me donne un toit, me donne une télé, une chaîne Wi-Fi, une voiture. Vous imaginez comment on est béni? Je ne sais pas si on se rend compte. Et on n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'on convoite. Parce que le monde nous fait convoiter, tout simplement. Je dois apprendre à être content. Vous savez, la convoitise du prochain, c'est dire que Dieu ne me donne pas assez. Je l'accuse. J'accuse Dieu de dire, voilà, ouais, mon voisin, il a plus que moi, pourquoi à moi, tu ne donnes pas plus? Je suis en train de dire à Dieu, ben, tu fais mal ton boulot. Et il fait pas mal son boulot, il sait de quoi j'ai besoin. Hein, et heureusement que Dieu sait de quoi on a besoin des fois. Mais la Bible nous enseigne ce contentement. Et quand on est content, on est en paix. Si vous êtes en train de convoiter tout le temps, ça crée à la fois de la gêne dans le cœur, mais de la culpabilité aussi à un moment, parce qu'on sait qu'on n'est pas bien. Mais si je suis content, je suis en paix, et je suis aussi dans la vérité. Un certain Boileau écrivait, en parlant du contentement, « Qui vit content de rien possède toute chose. » Qui vit content de rien possède absolument toute chose. C'est tellement vrai. Épicure disait, « L'homme qui ne se contente pas de peu ne sera jamais content de rien. » C'est vrai. Alors, je sais qu'on a tous envie un peu plus. C'est normal, je suis comme vous. On a tous besoin d'un peu plus. Mais il faut quand même un moment, en tant que chrétien, s'arrêter et se dire, « Regardez juste dans votre... » Prenez une fois le temps de vous balader dans votre maison ou dans votre appartement et regardez tout ce que vous avez. La joie d'avoir une voiture qui fonctionne, etc. Quand même, c'est pas mal. Hein, je suis comme vous, hein, j'ai envie de plus, hein, et je me bats contre ce fichu cœur. Mais franchement, des fois, je m'arrête et je dis merci Seigneur pour tout ce que tu me donnes déjà. C'est énorme. Pourquoi je suis jamais content? Et finalement, on se dérobe à nous-mêmes la paix que Dieu voudrait nous donner dans notre cœur. On dit toujours, ah, pourquoi on n'est pas des chrétiens en paix? Pourquoi on souffre de ça? Mais c'est peut-être aussi à cause de ça, des fois, tout simplement. La convoitise, ça conduit au vol, ça conduit parfois au meurtre. Par contre, le contentement conduit au bonheur, à la joie, à la paix. Pour terminer, une espèce de conclusion finale de ces 10 commandements, les commandements nous apprennent à respecter Dieu. C'est ce qu'on avait vu au début, parce que lui seul mérite notre adoration. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous acceptons de respecter Dieu, et nous voulons l'adorer. Le monde ne le veut pas, mais à la fin, de toute façon, tout le monde respectera Dieu, tout le monde fléchira le genou devant lui. Autant le faire librement, hein, et avec joie. Mais nous devons apprendre à respecter Dieu. Et ce respect, ça va inspirer ensuite notre manière de vivre avec les autres. Comme je disais tout à l'heure, si tout le monde pratiquait vraiment les commandements, il y aurait la paix dans ce monde, il n'y aurait pas de guerre, justement, il n'y aurait pas de convoitise, etc. Mais ça peut déjà commencer dans l'Église. Et si dans l'Église, nous-mêmes, nous apprenons à vivre ces 10 commandements, eh ben, on pourra vivre une vie d'Église tranquille, pépère, pleine de joie et de bonheur, non ? Préférez ça ou préférez vous taper dessus? Moi, je préfère ça, honnêtement. Mais bon, on a notre chair qui est encore là, on a nos combats. Mais... Et le chrétien peut vivre ses commandements. C'est ça qu'on oublie souvent, parce qu'on dit « Ah, c'est dur !» Mais le chrétien peut vivre ses commandements parce que le Saint-Esprit va lui donner les moyens de les vivre aussi. Et dans tous les domaines de ces 10 commandements, je peux les vivre au quotidien, à condition que je dise « Oui, j'ai envie de les vivre, que je me mette aussi au travail. » Mais Dieu me donne la possibilité de vivre toutes ces choses-là. Donc ça veut dire que Dieu nous donne la possibilité de vivre en paix les uns avec les autres. Ça dépendra tout simplement de mon choix et de ma volonté. Et j'ai envie de dire aussi, vivons ces commandements comme des témoins de Dieu, parce que vous, en tant que chrétien, quand vous êtes dans votre travail ou dans la famille ou à l'école ou je ne sais pas, et que vous vivez ces commandements, ils disent « Il est bizarre ce gars, il ne vole pas. Pourquoi il ne vole pas ? Pourquoi il n'a pas des ragots avec nous, etc. Il est bizarre ce gars. » Mais c'est bien justement parce qu'on vient des témoins de Dieu et on va leur montrer à ce moment-là que finalement vous voulez vivre dans votre guerre, dans votre tristesse, mais nous on veut vous montrer qu'on peut vivre en paix. Parce que nous voulons respecter Dieu, parce que nous voulons respecter les ordres qu'il nous a donnés. Et qui sait, ça peut peut-être avoir un impact dans l'endroit où vous serez, hein, que de vivre tout simplement en tant que témoin de Dieu et vivre ces 10 commandements totalement et pleinement. Donc, interrogation écrite, on va répéter les 10 commandements ou... Bon, on va prier, hein. Je suis plein de grâce aujourd'hui. Seigneur, nous voulons premièrement nous souvenir que ces 10 commandements, c'est toi qui les as donnés à Moïse. Tu lui as parlé, c'est donc ta parole. La parole éternelle et la parole vraie, pleine de justice, de sainteté. Et lorsque tu as dicté ces 10 commandements, tu as dit que c'était ce qu'il y a de plus parfait. Et c'est ce que tu voulais que nous obéissions aussi, Seigneur. Et nous voulons considérer la profondeur de ces commandements, comprendre qu'ils viennent de toi surtout, et comprendre aussi combien ils mènent au bonheur et à la joie, et c'est tout ce que tu désires pour chacun d'entre nous. Nous avons souvent l'impression que tu es un père fouettard et que tu nous refuses un tas de choses, mais finalement tu veux tout simplement nous apporter la paix, Seigneur. Apprends-nous à déjà connaître ces 10 commandements, mais aussi à les vivre au quotidien parfaitement, Seigneur, et comme on l'a dit, tu peux nous aider à les vivre. Mais ensuite, fais de nous justement aussi ces témoins dans ce monde qui ne les respecte pas du tout, pour que nous puissions vraiment briller comme des flambeaux, Seigneur, et tout simplement montrer ce que tu veux pour les hommes, non pas le péché, mais tout simplement la joie et la paix. Merci pour ces 10 commandements, Seigneur, et prenons plaisir tout simplement à y obéir. En Jésus-Christ. Amen.